Des SMS envoyés en direction de Cornouailles, des petites croix bleues qui montrent que mes messages ont tous été lus, et pourtant, un silence radio en guise de réponse. Ces petites croix bleues sans réponse, qui peuvent être interprétées de mille façons différentes, mais qui amènent rapidement à croire que la personne ne veut pas nous voir. La technologie, utilisée à mauvais escient, nous rend esclaves d'une vision réduite de la réalité. La technologie nous rend souvent malheureux. Il ne faut donc pas s'y fier. C'est ce que je retiens du message de Miguel.
Il y a des cas dans lesquels c'est plus flagrant encore cet écrasement des dimensions de la vie.
Oui.
C'est par exemple avec les personnes très âgées qui sont déjà un tout petit peu absents, comme ça, justement de la communication.
Oui, surtout dans les maisons de retraite.
Dans les maisons de retraite. Alors, oui. Tout à coup, toute cette nouvelle technologie permet que les gens abandonnent, sans trop culpabiliser leurs aînés, en disant, j'envoie une vidéo de comme les petits jouent au football, je l'envoie un SMS. Mais le problème, c'est que...
C'est un clone de la vie, quoi, pour ces gens âgés.
C'est absolument en pure perte. C'est-à-dire que toute la partie animale, vivant, n'est-ce pas, toute cette partie dans laquelle...
Les odeurs, les autres sens.
Absolument. C'est-à-dire que souvent, vous savez, les dialogues est un tout petit peu comme les pucetages des singes, non? On dialogue pour être avec l'autre, peu importe ce qu'on dit. Non, c'est par exemple quand on joue aux cartes, quand on joue à un jeu de société. Si on regarde les jeux de société, c'est vachement ennuyant.
C'est vachement ennuyant.
Mais pourquoi on passe un bon moment?
Voilà. Parce que c'est l'interaction.
C'est comme les pucetages. Les singes, c'est pucettes l'un à l'autre. C'est une façon d'être ensemble. Non
oui.
Alors quand on envoie à mamie une vidéo du petit Arthur qui fait goal.
C'est malhonnête, finalement.
C'est malhonnête, absolument. Parce que ce qu'elle a besoin, mamie, c'est que l'autre soit assis là, à côté.
Même si on ne parle pas.
Et même s'il ne se rappelle même pas les noms du petit-fils, le corps avec le corps renvoie une mémoire corporelle qui marque une présence.
Oui. Je n'y avais jamais pensé. Non que je veuille éviter mes parents... Mais les simulacres de vie de mes enfants que je leur partage par petites vidéos ne viennent-ils pas tuer la vraie relation que j'ai avec eux? Les souvenirs que j'ai de ma grand-mère, par exemple, me sont chers parce qu'ils sont colorés d'odeurs, de sons, de toutes sortes de sens qui rendent le souvenir vivant. Les souvenirs que j'ai de ma grand-mère me sont chers parce qu'ils sont colorés d'odeurs, de sons, de toutes sortes de sens qui rendent le souvenir vivant. La visite de ma grand-mère ne se limite pas qu'aux échanges de paroles que j'ai eus avec elle. Une visite, c'était d'abord un préambule, le son de la cloche pour prévenir de mon arrivée. Ensuite, le toucher de la poignée de la porte de la véranda, l'odeur forte du lambris sur les murs de la véranda.
Bonjour.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un truc qui ne marche plus.
Tout cela annonçait le...
Comment ça va?
De ma grand-mère. Son sourire et ses embrassades. De son côté à elle, les visites de son petit-fils, c'était d'abord le son de la cloche, de dehors, entendu de l'intérieur du salon, puis le son des pas précipités dans la véranda. Autant d'impressions qui contribuent à amener le climax de l'embrassade de son petit-fils qu'elle aimait tant prendre dans ses bras. Et maintenant, quel est le sort de ses grands-parents d'aujourd'hui ? Comment ont-ils le bonheur de vivre ces sensations inoubliables et associées aux personnes aimées, si ces dernières ne leur offrent pour tout échange que des vidéos envoyées par SMS?
C'est important de trouver les mots pour identifier ce qui est en train de nous arriver comme société.
Oui.
Voyez par exemple, le téléphone portable a opéré une mutation biologique majeure. Notre espèce, qui est une espèce qui normalement n'est pas en communication permanente, tout à coup passe à être une espèce qui est la possibilité de communication permanente.
Oui.
Alors, effectivement, c'est une mutation biologique qui n'est pas anatomique, mais qui, d'un point de vue du fonctionnement, d'un point de vue physiologique, est une mutation. C'est-à-dire que ça a changé notre espèce. Alors, je ne dis pas que ce soit ni bien ni mal, mais déjà, ce que j'ai dit, il faut mettre des mots là-dessus. Il faut penser au changement. Il ne faut pas se l'avaler tout cru, juste en voyant le côté ludique et utilitaire de la chose. On est en train de vivre des mutations très très importantes et il est hyper urgent de prendre le temps d'essayer de voir un peu ce qui est en train de se passer.
D'analyser et de verbaliser, précisément.
Oui.
Mais c'est pas facile.
Non, c'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller
à
tout communicant. Non, Rousseau, il disait, avec le progrès, le problème, c'est qu'on voit ce qu'on gagne, mais on ignore ce qu'on perd. Hein? Là, on commence petit à petit à voir ce qu'on perd. Là, avec le Covid, avec les confinements,
oui.
On a vu quand même que la communication virtuelle ne pouvait pas suppléer la présence.
C'est sûr.
Les gens déprimés, les gens se sentaient mal. Et pourquoi ? S'ils pouvaient être en rapport avec le monde entier. Eh bien non. Il fallait une personne à sentir, à toucher. Le monde entier ne suffisait pas.
Oui.
Tout à l'heure, vous me parliez de votre ami que vous ne voyez pas depuis 30 ans.
Oui.
Comment la contacter ? C'est ce que je vous disais aussi par rapport à Sarah. Non ?
Oui.
Comment la contacter, votre ami ? Eh bien, contacter votre ami, retrouver votre ami, c'est certainement pas la fiction de quelques SMS échangés. Retrouver quelqu'un, c'est tout à coup être dans la même habitation, dans les mêmes lieux, être là, se regarder, sentir comme ça, sentir que c'est le même, mais c'est un autre, parce que en quoi il est le même depuis 30 ans ? Ah, ben c'est un sacré truc. C'est le même, mais je ne le reconnais pas. Il est plus mince, plus gros, il n'a plus de cheveux, il a des cheveux, et il a des rides, il n'a pas de rides. C'est-à-dire, et pourtant c'est le même. Et en quoi c'est le même ? En tant que on m'envoie un SMS, il dit « Salut, je suis Sophie, la même. » Il dit « En quoi tu es la même ?» Et si sur l'SMS, c'est la même.
Oui, ben oui.
En présence, mais en quoi l'autre est le même ? Et après, comme dans un miroir, mais en quoi moi je suis le même ? Où est passé le Miguel qui connaissait cette Sarah ? Où est passé vous qui connaissez cette femme, cette amie ? Où nous sommes passés ?
Mais c'est ça qui est très excitant, justement, c'est de retrouver tous ces gens-là, de voir certains ou certaines que j'ai connues enfant, de voir ce qui est resté d'enfant dans ce corps devenu adulte, etc.
Et même la tristesse, souvent, de voir que peut-être l'autre a tout à fait oublié celui qu'il était, qu'il a trop fonctionné et qu'il n'a pas assez existé. Pour rester un peu fidèle à l'enfant qu'on était, aux jeunes qu'on était, aux amours qu'on a eus, aux passions qu'on a eues. Il faut pouvoir continuer à exister. Et tout à coup, on trouve quelqu'un, et oui, c'est le même, même peut-être il a peu changé physiquement, mais ce n'est plus le même parce qu'il s'est oublié. Il n'est plus là. Et ça aussi, c'est...
Ah, c'est le danger.
C'est le danger aussi, mais ces dangers, on ne les voit que quand on prend les risques de la présence.
Oui. Il faut l'accepter.
Il faut l'accepter, absolument. C'est ce qu'on essaye d'éviter à travers les SMS ou la communication prophylactique.
Bon, en conclusion, il faut que j'aille en cornouaille, quoi.
On va l'aider, si tu veux.
Moi, je pense qu'il faut que vous ayez en cornouaille, absolument.
Ouais. Mais non, tu sais bien, à Tokyo, oui. Ouais. Bon, on a déjà mis 400.
Que vous la preniez dans les bras, que vous regardiez, que vous vous étonniez. Ouais. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez, s'il vous plaît, aller téléphoner ailleurs.
Oui, c'est bon, ça va. Non, c'est pas toi que je dis ça, il y a des gugus à côté, là, qui... C'est... Vous permettez, là, j'ai le droit de vivre, là.
Oui, mais nous aussi.
Bon, j'y vais, tu continues, tu fais ce que je te dis, tu remets les 400, tu vois...
C'est un seul con, il peut emmerder des milliers des gens pacifiques.
Par contre, une seule personne pacifique ne peut pas...
Emmerder des milliers de cons, voilà, malheureusement. À propos de ce mec-là, non, justement, c'est drôle parce que, bon, d'abord, c'est bien d'être un chieur qui est empêcheur de tourner en rond.
Oui, je revendique.
C'est quand même bien d'être un empêcheur de tourner en rond parce que lui, il est tellement capturé par son business qu'il n'est plus là, il n'est plus nulle part, il n'existe plus, quoi.
Oui.
Alors, c'est drôle parce que lui, il veut qu'on sache que c'est un homme d'affaires. Vous savez, c'est comme un tout petit peu ce qu'on appelle la carte de visite claironnée. Le mec, il veut... Vous voyez, il veut qu'on le voit d'un certain point de vue. Il veut nous imposer un regard sur lui. Il ne veut pas être un petit gros, un peu barbu, qu'il a l'air un peu con. Non. Il veut qu'on sache que lui, attention, monsieur, il parle...
C'est un monsieur important.
Ouais. Alors, il claironne sa carte de visite. Des millions d'euros, voyager en avion. Et nous, voilà, qui en êtes un pêcheur de tourner en rond, qui avons à peine un vélo loué, effectivement, on n'a qu'à l'admirer, n'est-ce pas? C'est un peu une façon de se protéger, justement encore, contre cette angoisse d'exister, d'être là, n'est-ce pas? De dire, oui, je oui. vous exige que vous me regardez comme ça. C'est vite la rencontre. C'est vite la rencontre.
Oui, et puis ça ne nous donne pas le droit de le regarder autrement.
Absolument. C'est un tout petit peu comme dans les séances de psychothérapie, de psychanalyse, que c'est mon métier. Et alors, dans la séance, souvent, le patient, il a besoin de vous raconter sa vie, de se déverser, non ? Comme si, tout à coup, en se déversant, il mettait quelque part ce qui est éphémère, ce qui est dans le devenir, il le mettait dans une caisse de sécurité. Tout le travail psy, quand ça marche, c'est d'aider l'autre à assumer cette fragilité, ce devenir, ces changements, non ? Cette idée de qu'on est les mêmes dans la mesure qu'on accepte de changer.
Je ne sais pas du tout comment réagir. C'est un peu comme quand on est dans l'ascenseur avec d'autres personnes. Il y a la promiscuité et du coup, pour éviter la gêne, on doit faire semblant de regarder au loin. Et là, c'est pareil. Je me sens obligé de faire comme si je n'entendais pas sa conversation. Bon, alors que clairement, il nous empêche de discuter.
Il nous capture. On se sent violenté parce qu'il nous capture. C'est comme dans les théâtres. Oui. C'est-à-dire dans les théâtres, on a une écoute capturée.
Oui.
C'est-à-dire que ce que l'autre est en train de dire sur scène nous capture. Nous faisons partie du tout. Quand le grossier personnage parle au téléphone portable en criant, aussi, il tente de nous capturer pour qu'on soit son public, pour que lui-même il puisse se voir vivre.
Ah oui, c'est ça. C'est ça que je ressens. C'est ça qui me mettait mal à l'aise. Mais j'aurais jamais trouvé les mots pour le dire.
Les mots pour le dire, c'était le nom d'un roman qui parlait de la psychanalyse. Il faut trouver les mots pour le dire tout en sachant que les mots n'arrivent jamais à tout dire. Il faut avoir heureusement, il faut avoir une certaine humilité. Mais vous voyez, pour plus précis que ce soit quelque chose qu'on dit, plus c'est précis dans la mesure où justement, n'essaye pas de remplir l'ineffable, le non-disible. C'est-à-dire qu'on est très précis quand on permet l'émergence du non-disible, n'est-ce pas ?
Oui.
Et alors, cette émergence du non-disible ordonne la poésie, mais aussi la science, ordonne les discours, et c'est le contraire de la communication par SMS dans laquelle ce qui est dit, et point. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de devenir. C'est comme Barthélemy. Il dit, je préfère ne pas. On ne sait pas pourquoi il préfère ne pas. Mais il y a un, je préfère ne pas. Et là, c'est le geste fondamental. Le geste fondamental, c'est ne pas remplir avec des simulacres cet ineffable-là. Effectivement, quelqu'un qui dit, je ne sais pas comment le dire, ah ben, ce n'est pas fondamental. Il sait qu'il y a quelque chose.
Ah, ça, oui, ça, oui.
En tant que l'autre, qui croit qu'il peut tout dire par des SMS, par la communication, il a enseveli l'ineffable, les non-disibles qui ordonnent tous les dires.
Moi, je sens que c'est un peu une peur de la solitude. La solitude, elle est nécessaire quelque part. Mais j'ai l'impression que le portable, c'est l'arme suprême contre la solitude. Ils ont tous peur de la solitude, j'ai l'impression.
Ils ont peur de la solitude parce que la solitude signifie un certain rapport avec soi-même, d'intimité avec soi-même, mais pas de promiscuité avec soi-même. C'est-à-dire l'intimité avec soi-même, c'est comme un dialogue intérieur.
L'introspection.
L'introspection, c'est-à-dire un certain sas entre moi et le monde, les lieux où j'existe. La promiscuité, c'est quand je suis tout le temps en feedback, en feedback. Or, il y a une solitude pleine comme il y a une solitude vide. La solitude vide est la solitude qui a besoin de communiquer, communiquer, communiquer.
Oui.
La solitude pleine est celle qui, de temps en temps, est en relation avec d'autres. Et parfois, il peut aussi avoir besoin d'une communication concrète, n'est-ce pas ? Et moi, je pense qu'effectivement, tous ces appareils-là tendent à aplatir cette intimité avec soi-même vers une promiscuité avec soi-même. On est déversé vers l'extérieur en s'évidant de l'intérieur. La solitude, vous savez, comme vous le dites, me semble nécessaire. Il est absolument nécessaire d'apprendre à être seul pour pouvoir être avec l'autre, non parce qu'on a besoin de l'autre, mais parce qu'on a le désir, l'appétit oui. de l'autre.
Oui, oui, oui. J'ai rencontré un moine l'autre jour, Mathieu Ricard.
Ah, c'est un ami.
Oui. Ah, c'est un de vos amis.
Absolument, oui.
Ah, bah c'est rigolo, le monde est petit.
Oui.
Il m'a donné un petit cours de méditation.
Oui.
Ça me fait penser à ça. Une solitude riche, c'est pas si simple, finalement, quand on débute la méditation.
Absolument.
On a peur de ça.
Il y a une solitude sans soi, cette solitude des promiscuités. Une solitude dans laquelle on est tellement seul qu'on est sans soi. Et c'est très angoissant d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'a pas cette structuration intérieure comme pour pouvoir être avec soi, non ? Quand il est seul mais sans soi. Alors, oui. il a absolument besoin de l'autre. C'est comme un bébé tout petit. Le bébé tout petit, il peut pas, il n'a pas cette intériorité, il n'a pas cette couche profonde dans laquelle il habite. Il est en fusion avec sa maman, avec son papa, avec l'environnement. Or, les adultes, malheureusement, connaissent ce type de solitude sans soi, dans lequel il faut l'autre, mais pas l'autre par appétit, pas l'autre par affinité élective, pas l'autre par amour. Non, il faut l'autre parce que tout seul, je ne suis pas viable.
Je ne suis pas existant.
Oui, je ne suis pas existant. Je ne peux pas exister tout seul. Et alors, effectivement, c'est-à-dire cette solitude sans soi, elle est très, très triste, mais toute cette communication comme ça, SMS, portable, réseau, malheureusement, s'est développée cette attitude d'une solitude sans soi parce que pour développer cette intimité avec soi, il faut le temps, il faut apprendre à être seul. Et ce n'est seulement que quand j'ai appris à être seul que je peux être vraiment avec quelqu'un.
La solitude, mais avec soi. Je réalise que je commençais à ne plus savoir être seul. Besoin de monde autour de moi pour combler ce manque de soi dans ma propre solitude. Alors que je me retrouve, alors que je me sens capable à nouveau d'éprouver une solitude nécessaire, je comprends que je suis prêt à me reconnecter avec le vivant. Humain comme non humain,